Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Endurance 30. Je suis Nicolas Vandel et j'accompagne avec enthousiasme des sportifs amateurs dans la réussite de leur projet d'endurance depuis plus de 10 ans. Du 10 km à l'Ultra Trail en passant par le Marathon ou la Spartan Race. J'ai également été membre du staff de l'équipe de France de ski nordique de 2013 à 2023 et eu la chance d'être olympien 3 fois. Pour terminer, je suis auteur du livre La prépa physique de l'endurance disponible sur prépa-endurance.com. Le sujet me passionne et c'est pourquoi j'ai créé ce podcast. Je reçois coach, préparateur physique, kiné, sportif pour parler autour de ce vaste et passionnant sujet. L'esprit de ce podcast est de rendre l'information simple et accessible à tous. Bonne écoute. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir un trailer de très bon niveau, Cédric Goléa. Cédric, je vais te laisser te présenter, ça sera plus simple.
Salut tout le monde. Donc moi c'est Cédric Goléa, 43 ans. Je suis podologue de métier, marié, 3 enfants et je suis trailer, plus particulièrement ultra trailer. Je fais partie du team Scarpa depuis un an. Et j'ai participé à pas mal d'ultra, quelques victoires et quelques podiums à mon actif. Et voilà, je compte pas m'arrêter encore. On va voir ce que me réserve l'année prochaine. Mais voilà, là, on est l'hiver. Donc là, je vais attaquer la saison de ski alpi. Ouais. Et avant de rechausser les baskets au printemps.
Ouais, ben on y viendra justement sur le ski alpi et sur un peu tout ça. Et l'ultra, ça fait le trail est plus particulièrement ultra. Ça fait combien de temps que tu pratiques vraiment?
J'ai commencé à la course à pied tout simplement il y a 8 ans.
Ouais.
Assez tardivement. J'avais juste pendant mon enfance, je pratiquais d'autres sports et en gros de temps en temps. Nos entraîneurs nous faisaient faire des footings un peu en mode punition. Donc, en fait, c'était ça ma seule pratique de la course à pied plus jeune. Et donc, voilà, il y a 8 ans, je me suis mis à courir et par facilité, on va dire, pour reprendre le sport. C'est le côté pratique de la course à pied qui m'a attiré au début. Et voilà. Et après, pour répondre à ta question, l'ultra est venu très rapidement. C'est-à-dire que un an après mes tout débuts en trail, je faisais mon premier ultra qui avait été le 80 du Mont-Blanc. Et après, depuis, je me suis spécialisé sur la longue distance.
Ok. Pour situer un peu sur les gens, parce que tu n'as pas l'air de vouloir le mettre ton palmarès, moi je vais le dire quand même, ça fait quand même une cote autour de 800 en Cotitra, avec un best ranking à 804. Donc ça commence à être solide. Et notamment cette année, tu as fait, il y a pas mal de podiums, le Grand Raid des Qatars et les courses déjà de bon niveau. Et c'est quand même une 61e place à l'UTMB autour de 26 heures. Donc c'est juste pour un peu situer le niveau et situer la discussion qu'on va avoir autour du renforcement musculaire, justement, parce que c'est le thème du jour.
Ouais.
Tu as des choses à compléter?
Non, effectivement, ouais, j'ai fait une saison sympa. Après, toi, tu me parles de l'UTMB, mais en fait, faut savoir que c'est ma 4e participation à l'UTMB et c'était évidemment l'objectif numéro 1 de la saison. Oui, en effet, j'ai fait 61e, mais en réalité, j'ai déjà fait beaucoup mieux sur l'UTMB, donc ça a quand même été une relative déception, on va dire, en termes de performance, mais bon, voilà, je suis quand même content d'être allé au bout, donc j'espère que mon histoire avec l'UTMB n'est pas finie et que j'aurai l'occasion dès l'année prochaine de faire mieux.
Ok. On verra si le renforcement aurait pu t'aider ou pas, parce que ça sera tout le cœur du sujet. Et je vais commencer avec la question habituelle. C'est quoi la différence? Comment tu parles la différence? Pardon. La définition de l'endurance en quelques mots pour toi?
Pour moi, en fait, l'endurance, en fait, c'est, je définirais ça comme la capacité à maintenir une intensité régulière dans la durée. Donc, en fait, c'est savoir durer sans faiblir.
Ok. Ok. Bonne définition. Et on reconnaît la déformation du coureur ultra. Enfin, je ne sais pas si c'est une déformation, mais en tout cas, l'approche. Et aujourd'hui, en fait, on va vraiment parler du renforcement musculaire pour le trailer amateur, même amateur de niveau avancé, on ne va pas se mentir. Mais ça peut donner des perspectives pour des gens de ton niveau, ou peut-être des gens d'un niveau un peu plus faible. Mais il y a toujours de matière à discuter. Et, pour commencer par là, je voudrais Tu nous expliques un peu dans les grandes lignes comment tu organises ton entraînement, vraiment de manière générale, si tu prends tu découpes ta saison en phases, et puis après à l'intérieur d'une semaine un peu type, et puis s'il y a des variations de temps en temps avec des blocs, des choses comme ça.
Alors moi en fait, comme je t'ai dit, en gros la différence c'est que je pratique le ski là donc l'hiver, donc c'est une période où je cours beaucoup moins, en fait, en gros en termes d'entraînement, je fais du sport tous les jours, donc là en gros la différence c'est qu'entre la saison d'hiver et d'été évidemment les activités sont différentes. Je fais pas mal de sports croisés, donc là donc le ski comme j'ai dit et du home trainer et l'été je fais aussi pas mal de vélo. Donc voilà, après en termes de semaine, j'ai pas vraiment de semaine type en fait, c'est plus dicté par évidemment déjà mes disponibilités mais aussi par la préparation où j'en suis par rapport à différents objectifs. Donc évidemment il y a des semaines beaucoup plus chargées, des semaines de bloc et d'autres un peu plus light, mais en termes de volume on va dire que mon volume se situe entre 10 et 25 heures semaine quand je suis dans des phases de préparation des ultras.
Avant qu'on commence, tu me disais que tu avais fait une séance de home trainer ce matin. Et donc, du
Ouais.
coup, tu croises aussi beaucoup, j'imagine.
Ouais, tout à fait. Là, en fait, déjà, ça va un peu déborder du coup sur les futures questions du renforcement. Mais là, moi, globalement, le home trainer, je m'en sers actuellement surtout comme pour faire de la force en fait dessus. Donc, je trouve que c'est un moyen assez efficace et franchement, je trouve ça même assez ludique de transpirer sur le home trainer. Donc, j'aime bien ce genre de petites séances. Donc, quand j'ai le temps, j'essaye de derrière d'enchaîner sur un footing. Ça, j'aime bien. Bon, là, aujourd'hui, c'était pas possible parce que j'avais ni le temps ni les moyens parce que en fait, il a neigé, il neige depuis plusieurs jours. Donc là, les conditions pour aller courir sont un peu délicates. Donc, je m'en suis tenu à ma séance d'home trainer. Mais voilà, en fait, pendant l'hiver, je fais pas mal au moins une ou deux séances d'home trainer par semaine.
Ok. Je t'avoue qu'en ce moment, tous les gens que je coach avec l'arrêt de la neige, les programmes sont ingérables et ils sont très très dissipés. Et ce qui est plutôt une bonne chose, ils profitent d'aller skier. Je fais juste une pause de 2 secondes parce que mon casque Bluetooth a l'air de plus marcher, donc je me branche en écouteur. Est-ce que tu m'entends toujours?
Ouais, ça n'a rien changé.
Ouais. Tac. Excusez-moi pour les auditeurs. Ouais, non, ça marche pas. Est-ce que là, tu m'entends?
Ouais, c'est toujours bon.
1, 2, tu m'entends là?
Ouais, moi je t'entends. Toi, tu m'entends plus?
Ok, est-ce que tu m'entends ici?
Ouais, toujours.
Et là, il va falloir que je fasse une pause au montage. Tu m'entends là?
Ouais, mais moi je
Ah.
t'entends depuis le début, hein. T'as pas
Ouais,
coupé.
parfait, parfait. Bon, bah, je ferai une pause au montage. Bon.
Ok.
C'est les joies du direct. Et
Ouais.
ouais, bah donc oui, il y a pas mal quand même de trailers qui croisent l'hiver en ski, parfois en vélo. Et en saison, tu maintiens aussi justement du home trainer et de la course à pied derrière?
Non, enfin, globalement, après, en fait, dès que les beaux jours arrivent, j'essaye de retourner faire du vélo en extérieur, quoi. Hein, donc, après, non, franchement, l'été, le home trainer, j'en fais très peu. Ou à la limite, si j'en fais, ça va être pour juste faire tourner les jambes, plus en récup. Hein, mais je fais plus de spé sur le home trainer dès que j'ai la possibilité de retourner dehors.
Ok, par contre, tu profites du vélo en extérieur pour faire du long et pour croiser,
Ouais.
c'est ça?
Ouais. Globalement, en
Ok.
fait, en saison, là, ouais, le vélo, je le vois plus comme un moyen d'ajouter du volume, quoi. Hein. Mais franchement, après, dès que la saison vraiment de trail réattaque, tout ce qui est spécifique, moi, je le fais dans mon sport, quoi. Donc, avec les baskets, en course à pied. Hein, donc, c'est ma vision plutôt de l'entraînement, je le vois comme ça.
Tiens, le renforcement musculaire ne serait pas spécifique malgré ce qu'on entend. C'est rigolo.
Ouais,
Je
non, moi,
suis
pour
d'accord avec
moi,
toi.
quand tu cours, le spécifique, c'est de courir, quoi. Hein, donc, le reste, c'est du bonus, c'est du plus, hein, du surplus. Et je dis pas inutile, hein, mais bon, la qualité première reste de travailler la course à pied, quoi. Hein, donc, je fais du spé en course.
Ok. Si je résume un peu sur ton utilisation des sports croisés, notamment du vélo, on va l'appeler ça comme ça, finalement, en hiver, tu vas orienter un peu le travail sur de la force en essayant de transférer derrière quand tu vas courir. Et après, l'été, tu t'en sers un peu plus soit en récup, soit pour permettre d'atteindre les volumes que tu veux, si je résume bien la
Ouais,
situation.
tout à fait. Après, quand voilà, le vélo en extérieur, quand tu fais dans tous les cas, moi j'habite en montagne, quoi. Donc quand tu fais des longues ascensions, bah tu travailles dans tous les cas de l'endurance de force. Hein, donc c'est évidemment une qualité plus qu'utile quand tu fais de l'ultra, quoi. Donc voilà.
Ok. Et puis justement, pour nous amener au renforcement musculaire, on a déjà un petit peu discuté avant l'émission. Tu as eu quelques expériences avec du travail de force ou de renforcement musculaire. J'aimerais que tu nous fasses un peu ton retour là-dessus.
Ouais, en fait, globalement, je me suis adapté en fait aussi à ce que me demandaient les coachs que j'ai eus. J'ai eu deux coachs. Le premier, en fait, me faisait faire essentiellement du travail au poids de corps, donc c'était plus du circuit training. Voilà, ça j'en faisais de temps en temps. Après, j'ai eu un autre coach avec qui je suis plus là aujourd'hui, mais qui lui était beaucoup plus adepte de la musculation, la vraie, avec des charges élevées, beaucoup de travail en salle de muscu. Et bon, on va passer. Moi, le côté ludique, je trouvais ça sympa parce que bah en hiver, en gros, c'est cool d'être dans une salle au chaud plutôt que d'être dehors à skier. Mais après, moi, j'ai trouvé que la limite, c'était quand t'as aucune base de musculation et que enfin, en gros, t'es tout seul dans ta salle. Ben, je trouve que la limite, en fait, c'est l'exécution du mouvement, quoi. Donc moi, je trouvais ça pas forcément naturel d'arriver à bien faire les mouvements. Donc, j'ai trouvé que la limite était là parce qu'en fait, globalement, ça me crée quand même des petites tensions, sûrement par une mauvaise pratique, mauvaise réalisation. Et voilà. Donc, en fait, j'ai trouvé que la limite, elle se trouvait là. À côté de ça, j'ai pas ressenti spécialement un gain réel lorsque j'ai rebasculé après sur la saison de trail. Donc, en fait, je dirais que l'expérience, pour moi, le résultat, il est mitigé. Voilà. Après, je pense que si t'as quelqu'un qui te drive en permanence sur tes séances et qui est à côté de toi pour le faire et qui veille à ce que tu exécutes bien le mouvement, ça peut être peut-être plus bénéfique. Mais bah voilà, je pense pas que beaucoup de gens aient les moyens de se payer un coach à la salle de muscu en permanence. Donc voilà, je pense que pour moi la limite elle est là, d'essayer de soulever du poids. Après, voilà, peut-être que d'autres n'ont pas rencontré ce genre de problème. Mais voilà, moi, je trouve que la limite, elle est là. Et après, l'autre limite que j'ai trouvée, c'est que, bah, voilà, du coup, vu que ça te crée des petites douleurs, si le lendemain, tu dois faire une séance de qualité avec les baskets et que, du coup, bah, ça te tire de partout, tu t'es créé des douleurs et du coup, bah, tu passes à côté des intenses que tu dois rentrer en course, bah, je trouve que le gain, il est pas là, quoi. C'est ça qui fait que bah du coup j'ai pas été super convaincu par la méthode.
Ouais, mais je conçois tout à fait. Et en plus de ça, les gens n'ont pas forcément le budget pour repayer un coach perso. Et surtout, ils n'ont pas forcément le temps, j'imagine. Et quand tu parles de charges lourdes, enfin de la vraie musculation, pour toi, je ne sais pas si vous bossiez avec un pourcentage de RM, ou ce qui m'étonnerait, mais ou des choses comme ça, c'est une charge lourde, c'était quoi? Est-ce que tu étais proche de ton maximum ou ça restait un peu plus léger?
Non, c'était pas en force max, c'était pas en RM, en fait, c'était plus des 5-6 RM.
Ouais,
Et
5-6.
voilà. Donc, après, je me redemande pas de sortir des chiffres, je m'en rappelle pas, et en
Non.
plus, ça doit être assez ridicule parce qu'en bon coureur, je peux pas te dire que quand je soulevais des poids énormes. Surtout quand je voyais les gorilles qu'il y avait dans la salle de muscu, à chaque fois j'étais assez ridicule, mais donc voilà, je me rappelle pas, j'ai pas de chiffres, mais voilà, en gros le truc c'était des mouvements à répéter 5-6 fois.
Ok. Oui, bah après, je fais une parenthèse sur un épisode qu'on a eu avec Clément Goudin, qui est powerlifter. Et ce que tu dis,
Écoutez.
d'ailleurs, cet épisode, non pas que les autres soient pas bien, celui-là sera sûrement très bien, mais j'ai eu beaucoup de bons retours là-dessus parce qu'il a résumé le truc avec le coût de l'adaptation et
Voilà.
de s'adapter. Après, le 5-6 RM, moi, je descends jamais en dessous de ça. D'ailleurs, je le préconise, par exemple, à très, très peu de gens. Parce que bah, le coup nerveux et l'exécution de mouvement, C'est quand même, oui, c'est quand même important, je trouve, de mon point de vue, hein. Et pour arriver à encaisser des charges lourdes correctement, pour bien exécuter le mouvement et pour pas avoir trop de soucis derrière, il faut quand même pas mal d'années de pratique. Ça reste mon point de vue, hein, par rapport à tout ça, et ne serait-ce qu'aussi dans le choix des mouvements. Typiquement, un squat lourd et peut-être potentiellement délétère chez quelqu'un qui est pas placé. On va faire une fente avec une charge un peu plus légère qui est pas sur le dos. Dans l'absolu, il y a moins de contraintes sur la colonne, la flexion de genoux permet d'être un peu plus sécuritaire. Donc, il y a toujours plein de choses à faire et toujours plein de nuances à apporter je trouve, dans la préparation physique. Et moi, la plupart des gens que je coach ne vont pas sur des charges lourdes. Avec les équipes de France de ski, on y allait, mais sur une construction qui nous a pris 4 ans. Il faut quand même le dire, hein, chez des juniors, chez les amateurs, je trouve, et c'est un point de vue, que les deux vrais gains et tu auras le droit de rebondir par ton expérience en n'étant pas d'accord, mais les vrais gains du renforcement musculaire, ils sont sur des charges légères avec une basse santé, en fait, pour stimuler le corps de manière différente, hein, principalement. Et les gains de performance éventuels, pour moi, se font plutôt, de manière générale, sur de la force endurance, c'est-à-dire sur 8-12 reps en général. Parce que sur l'endurance de force, on ne peut pas être autant spécifique que si tu vas courir, tu ne pourras jamais faire autant de répétitions dans une salle qu'en courant, donc ça ne marche pas. Et comme tu l'as dit, les charges lourdes, ça reste coûteux, et nerveusement et structurellement. Donc ce compromis-là sur du 8-12 reps, je trouve que c'est ce qui fonctionne généralement le mieux chez des sportifs amateurs. Tu vois, il faut toujours nuancer, et il faut toujours nuancer aussi les études qu'on peut lire, parce que c'est rarement des gens de ton profil, en fait, qui sont dans les études. Sur la force, en tout cas, je trouve. C'est soit des gens qui partent de zéro, donc tu leur ferais lever des tringles à rideaux, ils auraient progressé quand même. Ou soit des gens qui sont vraiment forts, donc c'est aussi à nuancer par rapport à ça. Et toi, du coup, ton expérience, elle est plutôt mitigée là-dessus. Et quand tu avais un peu le système à poids du corps ou à charge légère, qu'est-ce que tu en avais retiré, par exemple?
Personnellement, moi, je trouve ça mieux en fait, hein. Donc, c'est-à-dire, bah, déjà, c'est un côté, comment dire, plus pratique, parce que je trouve que tu peux facilement l'intégrer à une séance de course à pied. Donc en fait, tu peux, bah, voilà, au milieu de ton footing, faire ce genre de choses. Tu peux faire des exercices genre Mio Cross Max, où tu fais ce genre d'exercice en bas d'une bosse. Et j'ai l'impression que moi, ça reste plus fonctionnel en fait, hein, plus adapté à la pratique, sans avoir, comme tu viens de dire, bah, ce problème d'adaptation et de coût qui je trouve sont délétères. Et voilà, moi personnellement, effectivement, je trouve que le bénéfice, je le trouve plus important, en tout cas dans mon cas. Donc après, moi, ce que j'ai conservé, c'est ce genre d'exercice. Soit je le fais, comme je te dis, au milieu d'un footing, soit en l'intégrant dans une séance, ou soit quand je le fais à la maison, j'aime bien en fait avec une charge légère. Genre, j'ai un gilet lesté, tu vois, de 10 kilos. Donc moi, je trouve que ça, c'est un bon compromis. Donc voilà, pour les exercices que je fais à la maison, souvent j'utilise ce gilet, ou j'ai des petites kettlebells que j'utilise aussi. Donc finalement, j'en suis revenu à plutôt à cette pratique, au détriment de la force pure.
Ça reste plutôt, si je comprends bien, une pratique santé et support spécifique, une pratique d'optimisation de performance, finalement.
Ouais, complètement, je le vois plus comme ça en fait, hein. Donc voilà, en fait, je trouve que c'est, voilà, ça crée moins de douleur, et comme je t'ai dit, j'ai pas trouvé que le gain était si important sur l'hiver dernier quand j'ai fait ça. Donc j'en suis revenu là, et voilà, je trouve que ça me permet de, bon, en tout cas, je me dis que c'est toujours bon à prendre, et je trouve que ça reste plus, voilà, comme je disais, le mot, je trouve, c'est surtout plus fonctionnel. Donc pour moi, c'est plus adapté.
Ouais. De toute façon, il y a autant de systèmes que de personnes et de profils, notamment toi qui croises beaucoup avec le ski de rando. Après, mon avis qui n'engage que moi, c'est que je pense dans 5 ans, j'ai fait un peu là-dessus l'autre jour, c'est que les charges lourdes et le mode haltéro, on va en sortir dans les sports d'endurance, parce qu'il y a quand même quelque chose de sociologique, entre guillemets. Dans les années 90, les prépas physiques étaient issus de l'athlé, donc tous les footeux faisaient de la VMA. Maintenant, beaucoup de prépas physiques sont issus du monde de la force. Donc la tendance, elle est aussi à des charges lourdes, des choses comme ça, parce que le profil des gens qui ont la parole, qui sont compétents, c'est pas le problème, il est plutôt orienté là-dessus. Et je pense qu'il faut aussi toujours mettre les choses en relation avec les réalités du terrain et être pragmatique. Et Surtout chez les trailers et les ultra-trailers comme toi, ben vous vous entraînez parce que vous aimez courir. Ouais.
Ouais, de toute façon, comme tu dis, je pense qu'il y a quand même, enfin, après, ça, encore une fois, moi, j'ai pas les études scientifiques sous les yeux, mais je pense qu'effectivement, il y a quand même, dans tous les cas, un effet de mode, entre guillemets, hein, depuis quelque temps. Il y a 3 ans, moi, je connaissais aucun personne qui faisait de la muscu, quoi, hein, donc, et là, d'un coup, t'as l'impression que tout le monde a trouvé l'arme ultime et ils vont pousser de la fonte, quoi. Donc, je te rejoins sur le fait que ça se trouve, bah, dans quelques années, il y aura une autre tendance qui va arriver et puis plus personne parlera de la muscu comme ça lourde et on passera à autre chose. Donc, après, moi, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que, bah, comme tu disais, celui qui, en gros, qui s'entraîne peu, quoi qu'il fasse, en plus, bah, il va y trouver un gain, parce que, bah, forcément, ça reste quand même toujours de l'entraînement supplémentaire. Après, quand tu fais déjà des volumes assez importants, ben ce qui reste quand même primordial, déjà, c'est de pouvoir courir sans te blesser, sans que ça altère ta capacité à courir. Et après, bah, il faut trouver le temps et l'énergie pour tout faire, quoi. Donc, la priorité reste quand même de courir, hein, selon moi. Donc, voilà, je pense que chacun, je pense que la muscu, ça peut être bien pour celui, voilà, en gros, qui peut pas faire de home trainer, qui peut pas courir, qui fait pas de ski, bon, l'hiver, voilà, ça peut être effectivement une alternative, mais moi, je reste persuadé, voilà, que je travaille mieux tes qualités en faisant soit de la course quand tu peux. Moi, quand je fais du ski alpin, bah, je trouve que c'est carrément plus efficace, au niveau concentrique, au niveau endurance de force, qu'aller à la salle. Et comme tu dis, moi, mon plaisir, surtout, c'est de passer du temps dehors, quoi, hein, donc, ça restera toujours plus fun que d'aller s'enfermer dans une salle.
Ouais, et il y a quelque chose qui apparaît moins dans les études, et j'ai vu quelque chose qui est sorti il n'y a pas longtemps en disant qu'il n'y avait pas moins d'impact en mode trail qu'en mode bitume. Alors peut-être, mais
Ouais, j'ai vu
n'empêche
ça hier.
ouais, n'empêche que, alors ça c'est bien, c'est très bien sur le papier, mais je trouve que quelqu'un qui fait du trail, la montée, la descente, du dénivelé, des variations de chemin, ses capacités proprioceptives et d'adaptation qu'on va aussi rechercher en renforcement musculaire. Elle se développe aussi par là. Et peut-être, c'est peut-être aussi pour ça que chez les trailers, je ne dis pas que c'est inutile, moi, 95% des gens font du renforcement parce que c'est une base santé, hein. Loin de là, mais c'est toujours l'histoire de la charge aussi. La charge, ce n'est pas une fin en soi. C'est un moyen de rajouter une contrainte pour chercher à progresser. C'est-à-dire qu'un débutant, très débutant à poids du corps, ça va aller. Après, à poids du corps, il va vite être limité parce que pour générer de la tension, c'est compliqué. Donc, tu rajoutes un petit peu de charge pour augmenter la complexité, et puis ainsi de suite. Et la charge lourde, en fait, c'est un moyen comme un autre, mais je pense qu'il n'est pas nécessaire. Et je sais que le renforcement, moi, ma ligne directrice chez les amateurs, mais quel que soit le niveau, c'est que normalement, après une séance de renforcement, je ne parle pas du lendemain d'ailleurs, hein, je parle dans la foulée, il devrait être capable d'aller courir. Et il devrait être capable de faire même une séance d'intensité. Sans que je le prescrive à chaque fois, ce n'est pas ça la question. Mais si à moins d'être très éloigné et de chercher quelque chose de très spécifique, mais si ta séance de muscu, elle te pète pour les 2 jours qui arrivent, tu as tout perdu. Ça reste un
Ouais,
avis.
d'accord, ce que je te disais tout à
Ouais,
l'heure, hein, c'est
ouais.
que
Moi, je te
la
rejoins.
finalité, ça reste d'être efficace dans ta pratique, quoi, hein, donc, si au contraire ça a des effets délétères, pour moi, t'es pas gagnant, non, dans cette pratique.
Ouais, et toi, tu as un profil où j'en ai 2 ou 3 que je coach comme ça, qui est un peu particulier dans le sens où tu as quand même un niveau qui est très avancé, mais tu n'es pas professionnel et athlète de haut niveau. Donc, à un moment, quelqu'un qui a que ça à faire, ou vraiment pour franchir un palier, la muscu peut aider à le franchir quand tu es limité et quand tu stagnes. Ça, c'est vrai. Ça peut corriger un facteur limitant, ça peut optimiser. Sauf que chez des gens comme toi, ou je pense à Ludo Baybazin que je coach, qui a un peu les mêmes côtes et qui fait son premier marathon en 2h35, à un moment, si tu lui enlèves de la course à pied, c'est compliqué, sachant que vous, les descentes en trail, vous les encaissez mieux que la plupart des gens, techniquement. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de choses à prendre en compte. Et c'est pour ça que c'est pas tout noir ou tout blanc. Il y a la vérité de chacun qui est un peu au milieu. Ouais, c'est un positionnement qui est délicat chez les sportifs de niveau avancé qui ne sont pas professionnels. C'est des choix à faire. Toi, ton choix, a priori, c'est de courir, de faire du ski de rando et de faire du vélo principalement. Et Ludo, s'il nous écoute, j'aimerais bien lui intégrer du renfo. On va y arriver cet été, cet hiver, pardon, hors saison, mais l'an passé, on ne l'a pas fait parce qu'il adhérait pas. Et à partir du moment où tu n'adhères pas à quelque chose, de toute façon, tu ne le suis pas longtemps. Ça, y a pas de
C'est
secret
sûr.
non plus. Ouais.
Ouais.
Je désespère pas d'y arriver parce que je pense que pour la santé, pour le petit gain, on va pouvoir y aller. Et justement, je disais sur. J'ai regardé l'UTMB 2022 que malheureusement tu avais abandonné.
Ouais, j'avais
Et.
le Covid la semaine d'avant.
Ah oui, bah, du coup, c'est pas en lien avec le musculaire. Et mon autre question est de savoir, est-ce que tu penses que des fois, les qualités de ton manque de renforcement musculaire, ça a pu te limiter ou pas?
Je l'ai cru,
Ouais.
d'où mon changement de coach et de façon d'entraîner l'année dernière. Mais bah maintenant, avec le recul, bah j'en suis pas persuadé. Donc j'avais l'impression en fait de me dire que je manquais de puissance en montée.
Ouais.
J'ai l'impression d'avoir un déficit à ce niveau-là. Et donc bah du coup la logique que j'ai eue à ce moment-là justement, c'était de me dire prendre un coach qui m'oriente sur ce genre de travail dans mon muscu va me faire passer un cap. Et bah au final, avec le recul, j'en suis pas persuadé. Donc voilà, en fait, en réalité, j'avais, je pense, identifié une. Enfin, je pensais avoir identifié un déficit à ce niveau-là qui, en fait, n'était pas avéré. Donc voilà, comme je te dis, je pense pas que ça m'ait changé. Ça m'est amélioré sur ce point, ni en montée ni dans en excentrique en descente. Donc voilà, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour celui qui débute et qui effectivement a un gros déficit à ce niveau-là, bah ça va être bénéfique forcément. Mais après, comme tu disais, à partir du moment où tu as quelques années de pratique, que tu fais quand même des volumes conséquents en ultra et que tu cours beaucoup, je pense que dans tous les cas, naturellement, du coup, tu as développé des qualités musculaires quand même assez importantes, quoi. Voilà, je pense que.
Je dis pas que tu t'étais trompé, enfin si, a priori oui, d'après ce que tu me dis, mais a priori pour monter vite, je ne suis pas sûr qu'on puisse mieux faire que du ski de rando ou de la bosse en courant. Je suis
Ouais,
pas
en fait,
chopé la caisse.
c'est ça. Je pense. Après, du coup, en plus, j'en ai discuté avec d'autres coureurs qui font du ski alpin. Et en fait. Bah là c'est pareil, t'as deux écoles quoi. Il y en a qui vont pousser de la fonte, mais en fait c'est surtout les gars qui sont sur du sprint, ce genre de discipline de ski alpin qui sont purement du ski quoi, hein. C'est de l'explosivité essentiellement. Mais après quand tu regardes les autres qui font du vrai ski alpin, bah y a la plupart des gars ils te disent qu'ils font une séance de muscu à la limite par semaine ou zéro, et que bah la meilleure façon pour augmenter leur capacité bah c'est de passer plus de temps sur les skis et faire plus de dénivelé quoi, hein.
Non, mais
Voilà, je pense.
de
Je
toute
pense que tu
façon.
développeras forcément musculairement l'intérêt de pratiquer, bah, c'est que tu fais de la muscu naturelle et que tu restes, voilà, encore une fois fonctionnel et dans ta pratique. Donc, je pense que définitivement, c'est un meilleur choix.
Bah, de toute façon, c'est une histoire de contexte parce que tout le monde n'habite pas en montagne et tout le monde ne peut pas faire du ski alpinisme. Donc, c'est des moyens détournés de travailler ça. Et à l'inverse, quelqu'un qui habite en montagne, qui fait du ski alpinisme et qui court en montagne, son besoin, il est sûrement minoré dans son contexte. Après, c'est toujours pareil. Si tu veux franchir un cap, peut-être que ça aide, peut-être pas d'ailleurs. Ou peut-être que ça aide pas du tout si tu te plantes d'analyse au début. Et donc, c'est pas toujours si évident que ça. Même si tu m'as dit que comme ça je fais le coup de promo, que tu voulais me le commander, j'espère te convaincre avec mon bouquin sur la prépa physique de l'endurance. Mais je vais pas te faire gagner 4 heures à l'UTMB avec ça.
Putain, ça c'est pas cool. Moi je misais tout
Voilà.
sur toi pour l'UTMB 2024, hein, donc non non,
Mais
mais je m'impatiente de recevoir ton bouquin quand même pour prendre des petits tips
ouais.
et je suis sûr que ça va être très intéressant.
Ouais, mais en plus, toi, le renfo, moi qui coach cette année, j'ai une soixantaine de personnes. La plupart ont du renforcement musculaire une fois par semaine, des fois deux selon la période, mais chez d'autres, et moi le premier, parce que il faut prêcher ce qu'on dit, enfin, il faut dire ce qu'on prêche, mais moi, j'essaie d'avoir du recul sur le renforcement. Je le fais que par période. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais attaquer dans ma planification, là, pour préparer mon marathon, j'y suis allé comme ça. À la reprise, j'ai fait un truc très généraliste parce que je voulais juste encaisser l'entraînement, donc j'estimais que j'en avais besoin. L'été, j'ai fait une parenthèse avec Sierzinal en faisant un peu de trail, donc le renfo, mais je ne pouvais pas tout faire, donc je l'ai mis de côté. Et à la rentrée, pour faire la transition sur bitume, j'ai refait un cycle de force à 5-6 RM, hein, justement, pour l'encaisser, mais parce que ça correspondait à mon contexte. Et c'est pas parce que je suis préparateur physique et que j'ai écrit un bouquin là-dessus que je dis qu'il faut en faire 4 fois par semaine, 52 semaines par an et toute l'année. C'est juste un support par période qui peut t'aider. Et il y a
Ouais,
d'autres
tout à fait.
supports qui peuvent t'aider aussi. C'est pour ça que c'est bien de prendre du recul par rapport à ça. Et j'ai du mal avec les notions de game changer là, dans le sport, parce que
Ouais.
le game changer, c'est pas ton capteur de glucose ou ton 6 RM au squat, hein. Ton game changer, c'est d'aller t'entraîner une fois de plus si tu peux le supporter. Et je pense que ça sera déjà pas mal. Et
Tout à fait.
c'est là que le renforcement peut t'aider à aller une fois de plus. Peut-être qu'au début. Souvent, les études, ils disent, enfin, souvent, j'ai certaines études en tête où le renforcement musculaire fait progresser, mais en fait, ça fait progresser parce que tu ajoutes une séance dans la semaine. Si tu avais ajouté
Ouais,
une
c'est ce que je
séance
disais tout
de.
à l'heure, hein, c'est que celui qui fait ça en plus, bah évidemment, si tu c'est celui qui s'entraîne 2 fois par semaine, bah d'un coup, grâce à la séance de muscu, il va passer à 3 fois. Et oui, il va progresser, hein, ça fait une séance de plus, hein, donc. Mais par contre, si du coup, à cause de la muscu, bah, tu as une séance de moins de ton sport, bah voilà, là, du coup, la balance, elle est négative.
Ouais, bah, c'est tout à fait ça. Et c'est là que le renfo est intéressant parce que quelqu'un qui a 3 séances par semaine, s'il fait une 4e séance de course, ça le tire de partout au niveau articulaire et tout. Bah, peut-être qu'au début, pour rajouter de la fréquence, bah, au lieu de rajouter une séance de course, ça va être un sport croisé, comme le renforcement musculaire. Et une fois qu'il est habitué à s'entraîner une fois de plus, qu'il s'est adapté différemment, et ben peut-être qu'après, petit à petit, tu peux réintroduire, transformer cette séance en séance un peu hybride et après en séance de course. Il y a plein de solutions, mais il n'y a pas de solution miracle en tout cas.
Bon, déjà, comme tu disais tout à l'heure, je pense que le principal, c'est de prendre déjà du plaisir dans ce que tu vas faire. Et surtout que tu y crois, quoi. Donc, à partir du moment où tu as ces deux facteurs, déjà, mentalement, si tu le vis bien et que tu penses que tu progresses, bah oui, tu vas progresser. Donc, voilà, c'est à chacun de trouver ce qui lui plaît, ce qui lui procure du plaisir et ce qu'il pense qui va le transformer de façon positive.
Ouais, je discutais avec une cliente à moi qui est en Nouvelle-Zélande en ce moment, et même dans le renforcement, c'est comme les intensités, c'est comme tout, l'adhérence, c'est super important. Et il vaut mieux quelque chose auquel tu adhères qu'un truc qui est censé être optimal. Et j'en discutais avec elle ce matin, et elle m'a demandé 2 ou 3 protocoles types de renfo parce qu'elle adore varier, elle adore changer, etc. Et elle disait moi, j'ai été capable de faire des swings et des relevés turcs 6 jours sur 7 pendant 5 mois. Parce que j'avais envie de l'apprendre et puis parce que je fonctionne comme ça et elle fonctionne totalement différemment. Moi, si je zappe, je me perds et je maîtrise pas, ça m'agace. Et elle, si elle fait toujours le même type de mouvement, même avec une logique de progression, eh ben, elle va, au bout d'un mois et demi, elle va arrêter, quoi. Donc, ça, c'est important aussi là-dedans.
Ouais, complètement.
Ouais. Même si pour elle, peut-être qu'il faudrait passer par X et moi par Y, si c'est pour l'arrêter au bout d'un mois, bah comme ça a été ton cas avec la force, peut-être, t'es pas gagnant au bout du compte, quoi.
Ouais, tout à fait. De toute façon, toute la difficulté pour un coach, ben, c'est ça, hein, c'est de trouver la méthode auquel l'athlète coaché va adhérer, quoi. Donc, voilà, c'est ton boulot, c'est le boulot des coachs.
Non, c'est sûr. Et on se trompe, hein. On fait des erreurs, on essaye,
Bien
on
sûr.
ajuste. De toute façon, personne n'a la. Même si les réseaux tendent à montrer, à faire passer le message du contraire, sur tous les gens qu'on coach, ben, on change la stratégie en cours de route quand même assez souvent, parce qu'on se dit, OK, on a essayé, ah, ça ne marche pas tant si bien que ça, bon, okay, c'est pas grave, on essaye autre chose et on voit ce que ça donne. C'est un essai-erreur constant et encore plus dans le renforcement musculaire, justement, qui est une activité complémentaire.
Bah ouais, complètement. Ça, c'est effectivement la difficulté, c'est savoir s'adapter. Encore une fois, c'est le mot, ça, c'est l'adaptation, mais s'adapter et trouver la bonne formule. Et donc, bah, ouais, effectivement, on se trompe, on essaie. Et en même temps, c'est ça qui est drôle, c'est de chercher la bonne formule.
Mais tu vois, dans un cas comme toi, un peu intermédiaire, le renforcement au-delà de la base santé, où je le trouverais intéressant, c'est le principe de Henneman, hein, que tu recrutes tes fibres musculaires les plus lentes en premier, les plus rapides à la fin. Et ça, tu peux très bien l'obtenir avec de la haute intensité ou avec des sorties longues. Hein. De toute façon, ça, c'est normal. Par contre, l'avantage qui peut être intéressant sur du renforcement musculaire, c'est de travailler ta compétence à les recruter. Et c'est là que c'est intéressant, où t'as, de temps en temps, ça t'évite de sortir sur une haute intensité. Tu vois ce que je veux dire? Non pas que ce soit pas utile, hein, mais ça permet d'avoir des compétences différentes en salle, mais ça remplacera jamais, jamais, jamais le fait d'aller faire ton intensité en montée, en descente, au plat, ou d'aller faire ta sortie longue. Par contre, ça peut gagner du temps par moment, sans être un game changer.
Ouais, tout à fait. Je te rejoins tout à fait là sur ça.
Et puis, bon, on arrive en fin d'émission. Je pense que les gens ont bien cerné ta philosophie et ta manière de fonctionner, mais quels conseils tu pourrais leur donner pour la pratique de leur sport? Et des gens de ton niveau et des gens d'un niveau un peu en dessous, je pense, aussi, tu vois, en amateur qui font 3-4 entraînements par semaine sur des ultras, par exemple.
Bah, on s'est rejoint, je vais un peu me répéter, mais par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il faut toujours garder en tête, d'une part, bah, d'essayer de trouver une formule qui nous procure du plaisir, parce que c'est quand on pratique de l'ultra, bah, ça demande quand même de l'implication. Donc en fait, bah, pour garder la motivation, il faut trouver quelque chose qui nous plaise. Et donc ça, quel que soit le niveau de pratique. Après, ben voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pour des pratiquants débutants ou d'un niveau bas, on va dire. Bah voilà, il faut essayer d'augmenter progressivement, essayer de rajouter toujours une séance de plus. Et idéalement, c'est en course à pied si le corps l'accepte. Et si jamais c'est un peu délicat de rentrer une séance de plus, bah là, je pense que le renforcement musculaire a toute sa place. Après, bah, pour des pratiquants d'un niveau plus élevé, on va dire, bah, je pense que il faut garder en tête que pour être un bon coureur, bah, il faut courir. Donc, moi, je reste persuadé qu'il faut faire du spécifique dans le sport qu'on pratique. Donc, pour cela, bah, il faut sortir, il faut courir, quoi. Donc, voilà. Moi, après, dernière chose sur laquelle on n'est pas revenu, c'est que je pense aussi le renforcement musculaire. Mais ça a un intérêt aussi à partir du moment où tu arrives à détecter une faiblesse à ce moment-là. Si ton kiné, c'est une blessure à répétition, etc. Bah là, pour le coup, ça, je pense réellement un vrai intérêt de bosser une faiblesse ou une asymétrie musculaire. Donc là, bah ouais, là, si c'est le cas, oui au renfo. Mais sinon,
Ouais.
bah sortez, courez.
Bah évidemment. De toute façon, le renfo dans ce que tu dis, et c'est ma philosophie aussi, le but c'est d'augmenter ta disponibilité à l'entraînement. Donc si ta faiblesse t'empêche de t'entraîner autant que tu pourrais en course à pied, bah, peut-être qu'il faut passer par là pour pouvoir t'entraîner autant qu'il faudrait un peu plus tard. Et ce qui est bien, c'est que même chez les gens de ton niveau, je pense, dans le peloton, tu peux retrouver des gens qui en font beaucoup plus que toi de renfo, des gens qui en font beaucoup moins. Qu'en font zéro, tu vois ce que je veux dire? Et tous les profils sont quand même différents.
Ah, tout à fait, ça c'est voilà, c'est comme on disait tout à l'heure, je pense que voilà, la conclusion, c'est qu'il y a des tendances, chaque coach a des visions un petit peu différentes, des approches différentes, et aujourd'hui, bah, il n'y en a pas une qui de façon évidente est au-dessus d'une autre, donc, bah voilà, c'est aussi ça qui fait la beauté du sport, c'est qu'il y a différents chemins pour arriver à un même résultat, donc, bah, l'essentiel, c'est de trouver le chemin qui nous correspond et qui nous procure du plaisir.
Bah, très belle conclusion. Merci à toi.
Ben, je t'en prie.
Allez, au
Merci
revoir
à
à tout
toi
le monde.
pour votre entretien. À bientôt.
Au revoir. Et voilà, c'est terminé. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et un petit 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute, ça fait toujours plaisir et ça incite à continuer. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter via ma page Instagram agile.training.